En séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Qu'est-ce que le salafisme, ce courant musulman qui rencontre beaucoup de succès aujourd'hui dans le monde arabe ? En quoi se distingue-t-il d'autres courants comme les frères musulmans ou le wahhabisme ? Le salafisme est le sujet traité par Bernard Rougier dans la communication qu'il a donnée à l'Académie des sciences morales et politiques devant les académiciens réunis en séance le lundi 5 novembre 2012. L'intervenant invité a intitulé sa communication « Sens et puissance du salafisme dans le monde arabe ». Entrez grâce à Canal Academy dans la salle des séances, vous entendrez d'abord la présidente pour l'année 2012, Marianne Bassid-Bruguière, qui présente en le résumant le parcours de Bernard Rougier.
Nous nous pencherons aujourd'hui sur le salafisme, ce mouvement sunnite de retour à l'islam des salafs, les premiers compagnons et successeurs du prophète, et ce mouvement qui abrite des composantes très diverses à travers le temps et l'espace, semble prendre aujourd'hui une grande ampleur. En tout cas, les analystes politiques accordent une attention croissante à ce courant religieux en attachant son nom à des visées politiques qui restent, à vrai dire, assez mal élucidées, mais qui sont qualifiées le plus souvent d'extrémisme et que l'on représente comme un élément nouveau de déstabilisation des sociétés et des États dans le monde arabe. Monsieur Bernard Rougier, qui a commencé à étudier le salafisme bien longtemps avant qu'il ne paraisse à la une de notre presse occidentale, a bien voulu accepter de venir nous présenter une mise au point sur le sens et la puissance actuelle de ce mouvement. Il est venu spécialement du Caire pour cela. Il est actuellement directeur du CEDEJ, c'est-à-dire du Centre d'études et de documentation économique, juridique et sociale que la France a établi au Caire. Il est docteur en sciences politiques, sorti de l'Institut d'études politiques, bien entendu. Ses études d'arabe, il les a faites à Paris 4. Il a étudié le droit également à Paris 2. Il a passé près de 18 ans, si mes comptes sont justes, dans des pays arabes. D'abord comme coopérant à Amman, en Jordanie, puis elle a enseigné de 1996 à 2010 à l'Université Saint-Joseph à Beyrouth, tout en étant en même temps chercheur à l'Institut français du Proche-Orient à Amman et au centre aussi que nous avons à Beyrouth. Et il a fait un petit intermède quand même à Clermont-Ferrand. Il est au Caire depuis 2011, dirigeant donc ce centre. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, Le djihad au quotidien, paru au PUF en 2004, Qu'est-ce que le salafisme, paru également au PUF en 2008, L'Oumma en fragments, paru au PUF en 2011, et il est également l'auteur de nombreux articles dans des publications étrangères, notamment anglaises et américaines. Monsieur Rougier, je vous remercie d'être venu et nous vous écoutons avec le plus grand plaisir.
Madame la Présidente, merci infiniment. Merci, messieurs les académiciens, pour cette invitation. C'est un grand honneur et j'espère en être digne dans le temps qui m'est imparti, c'est-à-dire une petite demi-heure d'exposé. Sur le salafisme, je vais commencer par quelques remarques introductives. Comme vous l'avez dit, le mot « salaf » fait référence aux premiers musulmans, aux pieux ancêtres, l'expression en arabe « salaf saleh ». C'est l'idée d'un retour aux sources de la religion, l'idée que pour être un vrai croyant, il faut imiter, dans la mesure du possible, la communauté des premiers musulmans. Mais quand on a dit ça, on n'a à peu près rien dit, parce que on ne savait pas du tout, on sait assez mal comment vivaient au 7e siècle les musulmans dans la société de la péninsule arabique, où le message prophétique a été prononcé. Et évidemment, il faut s'interroger sur cette dynamique salafiste, comment expliquer son succès. Comme élément de définition, très vite encore une fois pour des remarques introductives, on ne peut pas comprendre le salafisme sans comprendre le hadith, H-A-D-I-T-H, c'est-à-dire les paroles du prophète, les attitudes du prophète, le dit prophétique, qui ont été compilés, comme vous le savez, dans de gros ouvrages. Les deux principaux au Xe siècle sont ceux de Bukhari et de Muslim. Et c'est pour les militants, les croyants qui se réclament du salafisme, c'est une source fondamentale, presque aussi importante, presque plus importante que le Coran. Et selon moi, l'une des clés d'explication, ça n'est évidemment pas la seule, de cette dynamique salafiste, c'est que ça permet une réinvention, au fond, de l'identité religieuse, puisqu'il y a un travail permanent de mise en correspondance de ces hadiths avec la vie quotidienne. Il va de soi que ces hadiths, qui sont des milliers compilés, ne peuvent pas avoir prévu les conditions de la vie moderne, mais précisément, là où il y a une part de réinvention, c'est-à-dire qu'on va essayer de codifier son comportement, de le rendre conforme aux normes de l'islam, précisément par ce travail permanent de relecture, d'adaptation du hadith par rapport aux exigences de la vie quotidienne. On a dans certains supermarchés des affaires parfaitement absurdes de femmes qui se réclament du salafisme, qui ne veulent pas toucher des bouteilles d'alcool pour payer leurs clients. Bon, un exemple tout à fait absurde, mais révélateur. Vous avez également, vous voyez dans le métro, on voit dans l'espace public, des gens à la barbe broussailleuse et à la djellaba ou à la tunique, à la saoub en arabe, qui ne dépassent pas les mollets. C'est aussi un hadith du prophète qui dit que la robe ne doit pas dépasser le mollet, parce que sinon c'est une attitude de vanité. Donc vous avez ici l'imitation littérale dans l'habit, qui est une façon de se distinguer des autres musulmans et de prétendre être meilleur musulman que les autres. Sous-entendu, celui qui ne se plie pas à ces normes n'est pas réellement musulman. Ça, je pense que c'est extrêmement important aussi pour comprendre le succès de cette dynamique. C'est être salafiste, c'est revendiquer la propriété des origines. Et d'une certaine façon, l'origine tue l'histoire. C'est-à-dire que la plupart de ces militants salafistes ne s'intéressent pas aux écoles de jurisprudence, ne s'intéressent pas à l'histoire de l'islam. Et au fond, c'est pour ça que cette obsession de l'origine permet en quelque sorte de supprimer l'histoire, supprimer les créations jurisprudentielles, supprimer plus de 1500 ans de réflexion sur le droit, sur la façon dont on tire, par un effort de jurisprudence, de fiqh en arabe, on tire la norme des sources du droit. Je pense que c'est réellement important. Et une autre clé du succès du salafisme, c'est également cette prétention, en détenant, finalement, en s'identifiant à l'origine, d'être meilleur musulman et d'appartenir à l'élite de l'islam. Il n'y a rien de social, si vous voulez, dans le salafisme. Il n'y a pas de dimension de lutte des classes. Mais il y a une dimension sociale implicite. C'est que ça permet, au fond, à des gens qui n'ont pas fait d'études ou qui ont fait peu d'études, de tout à coup, d'accéder à l'élite de l'islam. Il y a un jeune musulman salafiste français converti me disait, je ne veux pas militer chez les frères musulmans. Les frères musulmans sont organisés. En France, il y a l'UOIF qui représente le courant des frères musulmans en France. Ce sont des avocats, ce sont des ingénieurs. Et cette personne me disait, pourquoi j'irais militer chez eux? Je serais au mieux couleur d'affiche. Au fond, ils ne font que reconduire le système profane, le système mondain. Ce sont tous des diplômés d'université. Ils sont avocats ou ingénieurs. Ils ont une barbe légèrement taillée. Ils portent un costume trois pièces. Moi, je ne reconnais que les valeurs religieuses, que l'excellence religieuse. Eux, ils consacrent un ordre profane et mondain. Par conséquent, je n'irai pas chez eux. Et cette tension vis-à-vis des frères musulmans est extrêmement forte. Et c'est probablement une des tensions qui traverse aujourd'hui les bouleversements dans l'espace des sociétés arabes. C'est finalement, je ne veux pas appartenir à une organisation qui consacre une élite mondaine, qui est organisé sur le mode du centralisme démocratique, un peu comme le Parti communiste occidental, et qui est au fond une organisation qui cherche des positions de pouvoir, le jeu électoral, et qui passe des compromis en permanence. Nous voulons purifier notre foi, ressembler aux premiers musulmans, et en aucun titre rentrer dans des transactions dangereuses avec les sociétés et le monde politique. Je crois que c'est un élément très important. Vous savez que le philosophe américain pragmatique John Dewey disait que un organisme ne vit pas seulement dans un environnement, mais il vit grâce à un environnement. Et l'environnement en question, me semble-t-il, c'est évidemment la mondialisation. C'est-à-dire que c'est une forme de pratique religieuse qui est probablement la mieux adaptée aux exigences de la mondialisation. Finalement, il y a un refus de la verticalité, un refus de la tradition au nom de l'origine, un refus de l'organisation politique avec son système d'avancement et un monde horizontal où vous pouvez, sans bien même parler très bien l'arabe, être en contact grâce à Internet avec des grands chers de la péninsule arabique. Et là, tout à coup, vous avez des jeunes marginaux, je simplifie le trait, de banlieue, qui se redécouvrent musulmans, souvent en rupture, ça a été souligné par les travaux des chercheurs tout à fait éminents, en rupture par rapport à l'héritage religieux des parents, Donc c'est rupture avec l'héritage du bled, l'islam maraboutique, etc. Et l'idée qu'on peut être en communication avec des grands chers de la péninsule arabique en leur envoyant des questions sur la vie quotidienne en France. Est-ce que je dois faire ça? Est-ce qu'il y a des lieux de mixité? Chez les salafistes, vous avez toujours le refus de la mixité, de l'irtilat en arabe, l'idée que cette mixité est source de corruption pour la foi du croyant. Et d'une certaine façon, à mesure qu'il y a une défiliation ou en tous les cas une absence d'intégration dans les sociétés d'accueil, dans le cas de la société française, vous avez une intégration dans ce champ du salafisme mondial, avec ses débats, ses courants, son monde d'Internet, ses chairs, ses excommunications réciproques, et ils sont passionnés par cet univers virtuel. Et à mesure qu'ils se désintéressent du politique et du social dans l'espace national ou l'espace européen, ils s'immergent littéralement dans l'espace du sens de cet espace virtuel, avec cette, souvent chez les salafistes français, cette importance accordée à la démarche de hijra, c'est-à-dire de migration, sur le modèle du prophète qui quitte la Mecque pour gagner Médine. Eh bien ici, la question qui se pose, puis-je être un bon musulman dans la société française? Et vous avez tout un, alors c'est tout à fait fascinant, il y a une réactualisation d'auteurs médiévaux parfaitement inconnus, mais parfaitement inconnus d'eux-mêmes, qui se posaient la question de savoir si dans l'Espagne de la Reconquête, les musulmans pouvaient rester là ou s'ils devaient partir. Donc on a un juriste maléquite qui était de moi et de l'ensemble, j'allais dire de la plupart des chercheurs parfaitement inconnus, Aboul Abbas al-Vansharizi, par exemple, un juriste maléquite maghrébin du XIVe siècle, qui a écrit une fatwa et qui a demandé aux musulmans restants dans la péninsule hispanique de quitter ces lieux, puisque les conditions ne sont plus réunies pour être un vrai musulman, pour exercer les cinq prières, et il faut donc partir. Et vous avez un courant de migration vers la péninsule arabique, ou vers l'Égypte, ou vers la Syrie, ou vers le Yémen, la Syrie avant la guerre, pour échapper à une société où être musulman, selon cette façon littéraliste, devient impossible ou difficile. Voilà ces quelques éléments, si vous voulez, pour essayer de comprendre le sens et la dimension de ce phénomène. Ce qui est la question, évidemment, qu'on doit se... Vous savez, à titre personnel, j'ai passé à peu près 5 années dans les camps palestiniens du Liban, où j'ai vu naître et se développer des formes de salafisme. On va revenir sur ces définitions qui étaient des formes de salafisme très violentes. J'en ai vu d'autres beaucoup moins violentes. Et si on peut parler, même si ça n'est pas très conforme au canon de la démarche historique, d'invariant, l'un des invariants, c'est que dans le contexte des camps palestiniens ou être palestinien au Liban, c'est de ne pas avoir accès au marché de l'emploi, c'est être un exclu en quelque sorte, c'est ne plus pouvoir vivre. La cause palestinienne n'est plus ce qu'elle était dans les années 70. Elle a perdu son attraction et son effet de mode chez les intellectuels, etc., elle n'est plus porteuse de sens. Et par conséquent, je vais m'identifier en quelque sorte au premier musulman, me retrouver comme salafisme et échapper en quelque sorte au statut discriminant de réfugié palestinien vivant grâce à l'aide de l'UNRWA dans les camps palestiniens. Il y a une dimension supplémentaire dans le cas palestinien, mais qui peut se retrouver ailleurs, c'est que si on a eu la chance de faire ses études à l'université de Médine, on a pu constituer un réseau parmi les commerçants ou parmi les chers, souvent ils sont commerçants, et donc, d'une certaine façon, augmenter également son statut social, l'améliorer. Et dans le climat, là c'est vraiment un cas limite, les camps palestiniens au Liban, j'ai pu voir des jeunes d'origine paysanne qui n'ont absolument jamais participé à la lutte palestinienne, qui ne sont pas dans les organisations palestiniennes, acquérir de l'argent, construire des mosquées, avoir des élèves, ouvrir des commerces et finalement devenir riches grâce à ces accès privilégiés dans la péninsule arabique. Ça, c'est quelques éléments de définition extrêmement rapides. Le deuxième élément que je voulais vous présenter, c'était en forme très simplifiée de montrer que le salafisme est une pensée polémique. Une pensée polémique qui s'est développée au fond du 8e siècle jusqu'à nos jours à travers 3 références essentielles. La première, c'est Ibn Hanbal, celui qui va inventer donc cette école juridique qu'on appelle le hanbalisme, qui est en gros l'école de l'Arabie saoudite, de l'institution religieuse saoudienne. Ibn Taymiyyah, qui est un cheikh très connu du 14e siècle, qui a assuré la défense de Damas façon mongole. Et un que vous connaissez, c'est Mohammed Ibn Abdel Wahhab, qui a donné son nom au wahhabisme. Et à travers ces 3 noms, très rapidement, de comprendre les enjeux théologiques et intellectuels dont le salafisme est porteur. Si on est dans Bagdad, à peu près au 8e, 9e siècle, nous sommes, j'allais presque dire, déjà dans une ville, une métropole de probablement plus d'un million d'habitants, qui est déjà presque un univers mondialisé, avec des conversions massives d'Iraniens et moins massives à l'époque de Byzantins, et un univers qui n'a plus rien à voir avec le cadre écologique et historique qui a vu naître la prédication de Mohammed. Et dans cet univers, si vous vous souvenez, vous avez certainement le souvenir de ce mouvement qu'on appelait les Mortazilites, un mouvement rationaliste à l'intérieur de l'islam, qui est un mouvement, en fait, qui est constitué par les nouveaux lecteurs du Coran, qui sont totalement pénétrés de catégories de la philosophie grecque et qui s'interrogent sur la notion d'unicité divine. Comment Dieu peut-il être unique? Comment garder cette idée d'unicité divine avec ce que Dieu dit de lui-même dans le texte coranique? Il le dit avec un langage humain et il le dit en quelque sorte, la façon dont il se décrit altère en quelque sorte l'idée d'unicité divine. Et les Mortazilites sont allés très loin dans cette réflexion en disant au fond, la notion de puissance ne peut pas s'associer à Dieu. La puissance est un substantif. Si nous associons la notion de puissance à Dieu, il y a deux entités, une hypostase et Dieu, et donc Dieu n'est plus unique. Donc Dieu est certes tout puissant, participe présent et valable, mais Dieu n'est pas puissance, puisque sinon la puissance comme concept ferait en quelque sorte concurrence à Dieu. Ça, c'est la première réflexion très subtile. Et la deuxième réflexion très subtile qu'il développe, c'est de dire « ce qui existe de toute éternité ne peut pas recevoir de contraire ». Dieu est tout-puissant, Dieu ne peut pas donc accepter son contraire. En revanche, tout ce que Dieu fait ici-bas dans la société des hommes peut recevoir son contraire. Dieu peut accorder sa faveur et il peut retirer sa faveur. Par conséquent, et c'est là l'enjeu très important, le Coran est créé. C'est-à-dire que Dieu l'a créé, l'a donné aux hommes dans la société du 7e siècle, mais il aurait pu ne pas donner ce texte. Et le fait qu'il l'ait donné dans un langage humain permettra à ses destinataires de l'interpréter avec ce langage humain. Autrement dit, les Mortazilites, sans le savoir, justifient en quelque sorte, aujourd'hui, ça n'est pas du tout un hasard si des musulmans libéraux se réclament de cette tradition, la possibilité de réinterpréter le texte avec les outils de la linguistique, de l'herméneutique, des sciences sociales, etc. Donc ce débat garde une très grande actualité. Vous l'avez deviné, celui qui s'est littéralement opposé à ce débat, c'est Ibn Hanbal, en disant « ce sont des spéculations philosophiques parfaitement scandaleuses, les Grecs sont en train de s'emparer de notre texte religieux, de lui donner un sens qui n'est pas le vrai sens, il faut s'en tenir à la lettre du texte ». Et c'est Ibn Hanbal qui, comme par hasard, pour mettre fin à ces spéculations philosophiques, va en quelque sorte valoriser, consacrer l'importance du hadith. La compilation du hadith va se faire plus de 150 ans après la mort du prophète, et ces petits textes, ces attitudes, tout ce qui a été consigné de l'attitude de Mohammed vont avoir une valeur équivalente à celle du Coran. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit évidemment le succès de ce qu'on va appeler le hanbalisme en milieu populaire contre la spéculation des élites, et même des élites du pouvoir, puisque le calife de l'époque, Al-Ma'moun, est un mortazilite et considère que le dogme du Coran créé est un dogme officiel qui doit être accepté par tous les religieux. Ibn Hanbal résiste, il est emprisonné, et il devient une figure populaire. Et il dit, il faut arrêter ces spéculations, les attributs de Dieu doivent être interprétés, ne doivent pas être interprétés, ils doivent être acceptés. Dieu est assis sur son trône, il a une main, etc. On ne doit pas, tout ça est dit dans le Coran, il ne faut surtout pas commencer à s'interroger. Et il y a évidemment un refus de la raison, comme dirait Luther, dans un contexte très différent, qui disait la raison, la putain du diable. Ici, il y a la même hostilité de principe par rapport au rôle de la raison dans les attributs de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle la figure d'Ibn Hanbal est une figure ultra valorisée dans le salafisme aujourd'hui, quel que soit le lieu, puisqu'il représente en quelque sorte, défendre Ibn Hanbal, c'est s'opposer aux musulmans libéraux et à tous ceux qui veulent relire le texte avec d'autres outils d'analyse. L'autre figure, je vais très vite, Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah est un juriste syrien, Damascène, qui a prôné le jihad en 1300, en défendant Damas, citadelle assiégée par les Mongols. Pourquoi on retrouve Ibn Taymiyyah? Pourquoi cet auteur a-t-il une telle actualité? Eh bien, c'est parce que il déclare le jihad contre des Mongols qui sont convertis à l'islam. Mais Ibn Taymiyyah dit, leur conversion est superficielle. Leur conversion n'est pas sérieuse. Ils ont du droit qui est d'origine mongole, qui n'est pas du droit musulman. Par conséquent, il est légitime de faire le jihad contre eux. Ce sont de faux musulmans. Et c'est ainsi que la figure de Ibn Taymiyyah, qui est pourtant un juriste hanbalite, qui prône l'obéissance au pouvoir, qui prône le loyalisme politique, est une figure qui va être, elle, récupérée et réinvestie par les salafistes jihadistes qui prônent le jihad. Et la troisième référence, très rapidement, c'est Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui, au XVIIIe siècle, va faire ce fameux pacte avec Mohammed ibn al-Saoud, le pacte qui va entre la prédication wahhabite et un prince, enfin même pas un prince, un émir d'une toute petite oasis dans le Nejd, et c'est le pacte constitutif, comme vous le savez, de l'Arabie saoudite moderne. Et j'ai trouvé une interprétation, même si Louis Dumont n'était pas du tout intéressé dans sa notion de hiérarchie par l'Arabie Saoudite. Vous savez, Louis Dumont, dans Essai sur l'individualisme, définit la hiérarchie comme un englobement des contraires. Et ça fonctionne très bien dans le cas saoudien, je m'explique. L'instance religieuse est une instance supérieure, le religieux est supérieur au politique, de façon absolue, mais dans l'ordre politique, qui est un ordre inférieur, le religieux est soumis au politique. C'était la doctrine du pape Gélas au 5e siècle, le prêtre est supérieur à l'empereur ou au roi, dans son ordre propre, qui est un ordre supérieur à l'ordre politique, mais dans l'ordre politique, l'empereur ou le roi a autorité sur le prêtre. C'est la définition de la hiérarchie chez Louis Dumont comme englobement des contraires. Eh bien, c'est exactement, ça caractérise très bien le pacte politique en Arabie Saoudite au XVIIIe siècle. On a cette alliance, ce qu'on appellerait la gestion du royaume sera laissée à Saoud et à ses descendants, et le religieux aux descendants de Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Et Mohammed ibn Abd al-Wahhab a un autre adversaire, Ibn Hanbal, son adversaire, on va dire, c'était les rationalistes. Ibn Taymiyyah, son adversaire, c'était les mauvais musulmans, musulmans superficiels. Et au fond, l'adversaire de Mohammed ibn Abd al-Wahhab, au milieu du XVIIIe siècle, eh bien, ce sont les musulmans qui pratiquent des pratiques impures, comme la visite des tombes, l'intercession d'un saint, les pratiques du soufisme. Et là, vous avez une hostilité très forte, évidemment, vis-à-vis du soufisme, qui est un invariant du salafisme. Parce que, pourquoi c'est une pratique condamnable à leurs yeux? Parce que Ibn Abd al-Wahhab insiste sur trois types d'unicité. Tawhid, ça veut dire l'unicité en arabe. Tawhid al-Rububiyya, l'unicité du créateur, il n'y a qu'un seul Dieu. Tawhid al-Sifat wa al-Asma, l'unicité des noms et des attributs de Dieu. On ne va pas rentrer dans la querelle des Mu'tazilites pour interpréter le sens de ces attributs. Et la dernière unicité, al-Tawhid al-Uluhiyya, qui est l'unicité de l'adoration divine, c'est-à-dire qu'il faut adorer Dieu et lui seul, ne pas reconnaître la fête à la naissance du prophète, le Maulid n'est pas une fête légitime, il ne faut pas la fêter, on ne doit pas rendre visite sur des tombes de personnages saints, on ne doit pas demander leur intercession auprès de Dieu, tout ça est du blasphème. Et dans les tout petits épîtres, parce qu'il a très peu écrit Mohammed ibn Abd al-Wahhab, ce sont des attitudes et des comportements qui vous retire la qualité de musulman. Et là, on a quelque chose aussi de très intéressant et à la fois de très dangereux. Naître du verbe naître, musulman, ne suffit pas pour être musulman. Si vous ne réaffirmez pas votre engagement à travers un certain nombre de pratiques et d'attitudes, vous perdez la qualité de musulman. Vous n'êtes plus véritablement musulman. Voilà à peu près, si vous voulez, les trois auteurs, selon moi, qui structurent aujourd'hui, si on peut dire, cette identité religieuse salafiste. Dans une deuxième étape, j'essaierai d'être aussi rapide et clair que possible, comment peut-on comprendre et structurer le champ salafiste aujourd'hui et comprendre, par exemple, la différence entre wahhabisme et salafisme. Alors, vous avez dans le wahhabisme une tradition majoritaire d'obéissance au pouvoir établi. C'est la raison pour laquelle l'institution religieuse saoudienne, par exemple, a légitimé l'appel fait aux Américains par le roi Fahad le 7 août 1990. Le 2 août, c'est l'invasion du Koweït. Le 7 août, c'est l'appel aux troupes américaines. L'institution religieuse a immédiatement considéré que cet acte était conforme à la charia, à la loi religieuse, et a fourni un argumentaire de justification. Donc, vous avez, dans le courant majoritaire du wahhabisme, une très forte loyauté vis-à-vis du prince. Mais il y a une tradition minoritaire qui, elle, considère qu'il est juste de se rebeller en certaines occasions. C'est ce qu'on a appelé la tragédie des Irouanes. Les Irouanes, dans les années 20, c'était les troupes d'élite constituées par le fondateur de l'Arabie Saoudite, Abdelaziz, qui a pris des jeunes issus des différentes tribus, les a placés dans des camps d'entraînement, ce qu'on a appelé des hijras. On les a placés dans des camps d'entraînement et on leur a dit qu'il faut répandre le véritable islam, l'islam universel, aussi loin que possible et récuser la notion de frontière. Et les Irouanes ont été l'instrument de la conquête militaire du fondateur de l'actuel royaume d'Arabie Saoudite, de 1905-1904, leur création, jusqu'en 1931, date officielle de création du royaume d'Arabie Saoudite. Et évidemment, à partir de 1927, les Anglais ont dit à Abdelaziz, écoutez, vos troupes d'élite font des opérations en Transjordanie, en Irak, il faut maintenant arrêter la conquête, vous devez avoir des frontières reconnues sur le plan international. Et Abdelaziz va dire à ses Irouanes, maintenant, ça suffit. Et eux ne vont pas accepter cette réelle politique. Et c'est la guerre civile qui se déroule de 1927, comme vous le savez, pour certains certainement, jusqu'à 1931, où le roi décide d'écraser des troupes qui lui ont permis, pour lui, d'accumuler du territoire et pour eux, de répandre aussi loin que possible la prédication, le message de l'islam. Donc on a eu des moments, si vous voulez, de très fortes tensions. Il y en a eu encore un autre au XIXe siècle. Vous aviez un courant minoritaire dans le wahhabisme qui ne reconnaissait pas aux Ottomans, à l'Empire Ottoman, la qualité d'Empire islamique. Et qui ont inventé un terme qui va être ultérieurement repris par Ben Laden et Ayman al-Zawahiri, al-wala wal-bara, c'est-à-dire l'allégeance et la rupture. Je ne peux faire allégeance qu'à d'autres musulmans qui sont comme moi. Je ne peux pas faire allégeance à des mauvais musulmans ou aux chrétiens et aux juifs, etc. Donc vous avez un courant dissident, on peut dire, dans le wahhabisme majoritaire. Autre courant, et ça, si je cite ce cher est connu à Roubaix, il est connu dans nos banlieues, il est connu dans le 19e, le 20e, dans les mosquées salafistes, c'est le cher Nasser al-Din al-Albani. Nasser al-Din al-Albani est l'idole de nos jeunes de banlieue, par des quelques milliers de jeunes salafistes. Qui est-il? Al-Albani, c'est une personnalité d'origine albanaise, horloger de formation, qui va apprendre la religion et le hadith, évidemment, à l'université de Médine, et qui va dire, finalement, vous, Saoudiens, vous n'avez pas réellement fait un effort de réinterprétation. Vous n'avez pas vraiment travaillé sur le hadith. Vous vous êtes contentés de reproduire l'école d'Ibn Hanbal. Vous êtes des Hanbalites. Moi, je vais refaire la critique du hadith, ouvrir le hadith à l'interprétation. Et c'est, en quelque sorte, c'est l'homme qui va réactualiser l'importance du hadith dans le corpus religieux. Donc c'est une personnalité extrêmement importante que les Saoudiens vont finir par chasser et qui va finir ses jours et qui va mourir en 99 en Jordanie. Et là, vous voyez qu'on peut dire de Nasser al-Din al-Albani qu'il est salafiste, qu'il va ouvrir la critique du hadith qui avait été abandonnée par les Saoudiens, mais qu'il n'est pas wahhabite, au sens où il n'appuie pas nécessairement le pouvoir saoudien, il n'est pas membre de l'institution religieuse saoudienne, il est à côté. Et puis vous avez un troisième courant, le plus connu, on va dire, qui est le salafisme jihadisme. Là, la grande personnalité qui va ouvrir ce courant, c'est un prédicateur palestinien qui s'appelle Abdallah Azam. Abdallah Azam, à l'origine, est un frère musulman, qui milite dans les frères musulmans jordaniens, qui commence à être actif politiquement à la fin des années 60, qui refuse de s'entraîner dans les camps d'entraînement de l'OLP, parce que ce sont des marxistes, ce sont des athées, ce sont des communistes, ce sont des nationalistes, donc ils ont des catégories impures, de son point de vue. Il va constituer un camp uniquement réservé aux religieux, qu'on va appeler le camp des chers. Il va devenir professeur à l'université de Jordanie dans les années 70. Il fera son cours à l'université de Jordanie en treillis militaire, parfois avec une Kalachnikov. Il inquiète naturellement les autorités jordaniennes qui vont l'exclure en 79. Pendant quelques mois, il a un poste d'enseignant de jurisprudence islamique à l'université Abdelaziz à Jeddah, où il aurait eu comme étudiant Oussama Ben Laden, mais qui était lui un étudiant en gestion, mais qui serait venu à ses cours. Et là, il rencontre un frère musulman égyptien qui lui dit « il faut aller en Afghanistan, c'est une terre où il y a une résistance islamique contre les Russes ». Et Abdallah Azam va aller en Afghanistan et il va être le héros, en quelque sorte, ou le Che Guevara du djihad mondial contre les Russes. C'est-à-dire que, à mon sens, il est extrêmement important, puisque comme Che Guevara qui disait « un, dos, tres, muchos Vietnam », lui va dire « après l'Afghanistan, il faudra se battre dans les Philippines, il faudra se battre au Liban, il faudra se battre en Asie centrale ». Il multiplie en quelque sorte les fronts du djihad. Et il considère également que le djihad est une obligation individuelle en cas de défaillance des États musulmans. Et là, il rompt avec la doctrine classique et il privatise le djihad en considérant qu'un simple individu a le droit de proclamer le djihad non tenu du comportement des dirigeants des États musulmans. Évidemment, cette privatisation du djihad est un élément extrêmement important. Privatisation et démocratisation du djihad, puisqu'il dit au nom du djihad, l'enfant a le droit de désobéir à ses parents. Les hiérarchies sociales et les hiérarchies familiales sont bouleversées. Ce djihad est un devoir obligatoire pour les individus. Si vous ne l'accomplissez pas, vous perdez votre qualité de musulman. Et cette pensée, en quelque sorte, du djihadisme va se développer à Peshawar essentiellement. À partir de 84-85, Abdallah Azam crée des maisons d'hôtes. Et Ben Laden, qui est un des financiers d'Abdallah Azam, va créer sa propre maison d'hôtes à partir de 1988, son propre réseau, qu'il va appeler Al-Qaïda, qui existe, qui est une organisation, qui a une base, comme le nom l'indique en arabe, probablement une base informatique, avec des volontaires, des systèmes de congés payés, on a le droit de partir et d'être payé quand on est militant d'Al-Qaïda, une organisation très structurée. Donc ceux qui ont dit à la télévision Al-Qaïda n'existe pas, ou c'est une image, etc., se trompent. Al-Qaïda a existé réellement comme organisation à partir de 88. Et on a, à ce moment-là, j'allais dire un produit de synthèse entre le salafisme et le djihadisme, qui va se développer dès la fin des années 80. Et là aussi, Ben Laden n'aurait pas existé sans les chaînes satellitaires, sans Internet, sans, au fond, la mondialisation. Il y a au moins deux ou trois éléments qui vont rendre crédible sa prédication. C'est la chute du mur de Berlin, la fin de la guerre froide, et, comme dirait Huntington, auteur très naturellement très contesté, Islam has bloody frontiers. C'est-à-dire que dans les années 90 et au milieu des années 90, les chaînes satellitaires vont diffuser en quelque sorte en image le malheur arabe. Et ce malheur arabe en image va faciliter un processus d'identification avec la Oumma, avec la communauté des croyants. Et cette Oumma va avoir une réelle dimension concrète à travers l'image. Exactement comme à partir de 56-57, Nasser, en créant Sawt al-Arab, la voix des Arabes, va donner un sens et une existence concrète à la notion de monde musulman. Ces deux médias, je pense, la chaîne satellitaire dans les années 90, comme la radio dans les années 50, vont donner une consistance à une notion qui reste sinon extrêmement abstraite. Ça me paraît très important. L'autre élément important sur le plan géopolitique, c'est la banalisation de l'intervention militaire américaine, qui est déjà visible avant la fin de la guerre froide, en Libye, qui est visible au Liban, qui est visible dans le golfe Persique, qui va évidemment se prolonger dans des proportions et à une échelle beaucoup plus large à partir de 90-91 avec la guerre du Golfe, qui va se prolonger, qui donne en quelque sorte du poids et du sens au discours de Ben Laden. Là où Ben Laden va franchir une frontière symbolique très grave, en août 96, il sort un premier communiqué où il prône une action de guérilla contre les installations militaires américaines en Arabie et dans la péninsule arabique. Puis, en août 98, il crée le front de lutte contre les croisés, les juifs, et il considère qu'il est du devoir de chaque musulman de tuer un impie n'importe où, n'importe quand. Donc tout à coup, en quelque sorte, il n'y a plus de front, et il n'y a plus de théâtre d'opération. Le théâtre d'opération est nulle part et partout. Et c'est là où il franchit un degré supplémentaire dans la mondialisation, en quelque sorte, dans la mondialisation du djihad. Voilà, en parlant vraiment à très très grands traits, la façon dont le salafisme peut se structurer entre une institution wahhabite qui est loyale par rapport au pouvoir établi, mais qui, et c'est là le danger, partage paradoxalement avec Ben Laden la même vision terrifiante de la vie dans la société occidentale. Parce que être en Occident, du point de vue d'un docteur de la loi wahhabite, c'est risquer de compromettre sa foi par la mixité avec les femmes, par le risque de manger du porc, par le risque de ne plus pratiquer l'arabe, par le risque de ne plus pouvoir pratiquer sa prière, etc. Donc autant l'institution religieuse wahhabite est très hostile au djihad tel qu'il a été réinventé par Abdallah Azam et Oussama Ben Laden, mais ils ont la même vision, paradoxalement, la même représentation en quelque sorte, d'une société occidentale comme étant le lieu de perdition. Et cette dimension-là, évidemment, est dangereuse, même si la majorité, encore une fois, des salafistes ne sont pas djihadistes, n'adhèrent pas à la doctrine du djihad mondialisé. L'autre élément très important qui explique également le poids qu'ils ont retrouvé dans les pays arabes, peut-être que la clé du succès du salafisme, c'est paradoxalement l'effondrement de toutes les idéologies alternatives. Le fait que l'islamisme occupe un poids si important. Dans le cas des sociétés arabes, c'est évidemment, me semble-t-il, le résultat de 10, 20, 30 années d'autoritarisme, où il n'y a pas de société civile, où il n'y a pas de parti politique, où il n'y a pas de syndicat, où il n'y a pas de vie intellectuelle, il n'y a rien. Tout ça est gelé de façon absurde. Et que paradoxalement, le seul élément autorisé, laisser l'espace privé, la mosquée, le retour à l'islam des origines, prétendument. Donc ça n'est pas du tout un hasard, en quelque sorte, si avec ce référent extrêmement puissant, porteur de légitimité charismatique qui est le référent salafiste, le retour à l'origine, des acteurs ont pu, après la chute des régimes autoritaires, exister, passer aux politiques. Vous avez encore, dans mon exposé, j'ai un troisième courant, comme quoi il faut toujours noter son plan, que j'avais oublié de noter également. C'est un courant aussi très intéressant, qui est le résultat d'une synthèse entre les frères musulmans et l'institution wahhabite traditionnelle, ici dans le cas saoudien, qui a été illustrée par un de mes collègues à Sciences Po, Stéphane Lacroix. Et c'est de montrer comment les réfugiés frères musulmans syriens, égyptiens, arrivés en Arabie Saoudite, ont en quelque sorte colonisé le système d'éducation et ont politisé la prédication wahhabite. Les wahhabites sont surtout obsédés par la question de la purification du dogme. Vous voyez, toujours cette idée d'unicité. C'est le dogme qui est important. Et la nouvelle génération saoudienne a dit à ses chers, mais vous vous intéressez pas à la politique internationale, vous intéressez pas à la Palestine, vous ne vous intéressez pas à Israël, vous êtes complètement tourné vers les questions de rituels et de dogmes. Et on a une espèce de synthèse qui est un salafisme de mouvement, si vous voulez, qui est un salafisme politique, qui est aujourd'hui puissant en Tunisie et qui est aujourd'hui puissant en Égypte. Et il est d'autant plus puissant que nous sommes à l'ère de la fondation des pactes politiques dans l'espace arabe et que, au fond, il y a une tension, selon moi, qui remonte à la révolution iranienne de 1906, entre l'idée de constitution et l'islamisme, entre le constitutionnalisme et l'islamisme, et que ces mouvements salafistes sont préoccupés par une chose qui a justifié leur passage aux politiques, puisqu'auparavant ils disaient « il ne faut pas passer aux politiques, c'est impur ». Là, ils sont passés aux politiques au nom d'une valeur, l'application de la charia. Il faut donc que les nouvelles constitutions tunisiennes, égyptiennes, consacrent l'idée d'application de la charia. Et si c'est une application de la charia, vous avez une instance chargée de faire appliquer cette charia, un processus en quelque sorte constitutionnel permanent qui fait qu'il n'y a plus de constitution. Vous donnez tout à coup le pouvoir à un corps de spécialistes, soit l'université d'Al-Azhar, soit une autre institution dans le cas égyptien, qui sera chargée en permanence d'appliquer la charia et donc en quelque sorte de détruire l'idée constitutionnelle. La capacité des islamistes à s'emparer de n'importe quel enjeu pour en faire une affaire symbolique, justifierait en quelque sorte l'intervention d'un juge constitutionnel islamiste au-dessus du juge constitutionnel qui s'emparerait de ces questions pour réclamer une norme, une application de la charia. Donc on a ici, si vous voulez, ce salafisme est en train de dépasser, de faire de la surenchère par rapport au courant déjà islamiste des frères musulmans, qui même s'ils sont capables, ils ont le pouvoir électoral, ils veulent être acceptés par les chancelleries occidentales, seront obligés sur la question symbolique de la charia de négocier avec ces salafistes et on ne voit pas exactement comment le compromis peut être trouvé, sachant qu'il y a aussi des libéraux, des musulmans libéraux, qui eux ne veulent pas que la charia soit consacrée par la Constitution. Donc ce passage aux politiques du salafisme, dans ses différentes dimensions, y compris la dimension djihadiste dans le cas du Nord Mali, qui est une des... Nord Liban aussi, qui est un des effets, des contre-effets de l'opération en Libye, va, en quelque sorte, rendre ces sociétés difficilement gouvernables. Il y a un problème de gouvernabilité qui va se poser, de légitimité religieuse et de légitimité islamique, dont, en quelque sorte, le fondement est la difficulté et le pacte politique et l'idée même de constitution. C'est très étonnant de voir que dans le contexte chiite, qui est très différent, ça s'est posé en 1906 de la même manière avec les héritiers de l'Ayatollah Khomeini qui récusaient également l'idée d'une révolution constitutionnelle et qui considéraient que c'est la charia qui devait passer avant le mouvement constitutionnel iranien de 1906.
Je vous remercie beaucoup.
Vous venez d'entendre Bernard Rougier. Le texte de sa communication sera disponible sur le site de l'Académie des sciences morales et politiques www.asmp.fr. Toutes les communications de l'année 2012, série intitulée par la présidente Marianne Bastide-Bruguière « Asymétrie et force neuve du monde actuel » sont enregistrées par Canal Académie, disponibles à l'écoute et au téléchargement en libre accès permanent.